Un échec par Alfred Mortier, chapitre 1er. Ce dimanche-là, par un joli soleil d'avril, Mick et moi déjeunions dans une guinguette au bord de la Seine du côté de Bougival. Au dessert, nous nous mîmes bien entendu à parler de criminologie. « Voyez-vous, me dit le policier, le public ne se rend pas toujours compte des difficultés que nous rencontrons. Assurément, la police moderne est admirablement outillée, surtout depuis le progrès des services d'identité et de laboratoire. Malgré cela, nombre de crimes demeurent mystérieux. Voici 40 ans, Massé, qui fut chef de la sûreté, a publié un livre intitulé « Crimes impunis ». La liste en est impressionnante. Je passe sous silence les crimes ignorés, qui sont certainement nombreux. Les disparitions, qui se comptent journellement par dizaines, en sont la preuve. D'autres fois, le meurtre présente un aspect énigmatique, qui déroute les recherches. Non seulement on a peine à découvrir le meurtrier, mais encore, chose extraordinaire, on ne parvient même pas à reconstituer le mode d'exécution du crime. Ceci est évidemment assez rare, mais m'est arrivé une fois il y a quelques mois, et j'ai quasi perdu mon latin. « Ah ! » fis-je alléché. « Contez-moi donc cela. » « Voici. J'habitais à cette époque, vers le haut du boulevard Raspail, un minuscule appartement de 2 pièces dans un vaste immeuble peuplé d'artistes. Sur mon palier, en face de ma porte, au 5e étage, logeait un peintre nommé José Ferval, âgé d'une 40aine d'années, qui exposait au Salon des artistes français des nus fort estimés des connaisseurs. Il peignait d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans toujours la même femme, sa maîtresse, qui lui servait de modèle. C'était une certaine Angela Dorn, une belle blonde de 30 ans, d'une carnation magnifique et taillée comme une valkyrie. Cette Brunhild d'atelier sortait peu. On l'apercevait tout juste le matin vers 9 heures, allant prosaïquement faire son marché. Le reste de la journée, elle posait pour son amant ou faisait de la musique. Je m'arrêtais parfois sur le palier pour l'écouter. D'une voix chaude, métallique, elle chantait avec art d'étranges chansons d'un caractère slave ou balkanique, tantôt fortement rythmé, tantôt empreinte d'une langueur de mélopée. J'ai pour principe de frayer peu avec les étrangers ou les voisins, non que je sois gêné par mes fonctions, mais plutôt afin d'éviter de sots commérages. Toutefois, je n'avais pu me dispenser d'échanger quelques propos avec mon voisin de palier, d'autant, vous n'ignorez pas, que la peinture est ma distraction favorite. José Ferval était un grand gaillard barbu, à l'abord sympathique, au regard direct, qui faisait de la peinture musclée, saine et sensuelle à la façon de Rubens. Ce n'était pas un de ces cubistes morbides, qui, mais je m'égare. Revenons à mon histoire. Ce jour-là, je sortis de chez moi à midi précis au moment où sonnaient les 12 coups d'un clocher voisin. Sur le palier, j'aperçus Ferbal devant sa porte ouverte et, dans le vestibule, Angela Dorn en peignoir. « Si tu ne te sens pas bien, couche-toi vite, » lui disait l'artiste. « Moi, je cours chez le pharmacien d'en face et dans 5 minutes, je t'apporte un flacon de spartocamphre qui te réussit toujours admirablement. » Angela fit oui de la tête, ferma la porte et nous descendîmes ensemble. « Elle est parfois sujette à de petites défaillances cardiaques, » me confia Ferbal. « Une journée de repos et demain il n'y paraîtra plus. » En bas, le concierge me remit un pli urgent que venait d'apporter un agent cycliste. J'en pris aussitôt connaissance et je relus 3 fois pour me pénétrer des instructions détaillées qu'il contenait. Entre-temps, je vis revenir Ferbal avec son flacon et grimper les étages 4 à 4. J'allais sortir lorsque j'entendis dans l'escalier des coups violents frappés contre une porte et je reconnus la voix de Ferbal criant « Ouvre, Angela! Ouvre donc, sacrebleu !» Les coups de poing redoublèrent. « C'est bizarre, » dit le concierge. « Qu'est-ce que tout sera fut ?» Intrigué, moi aussi, au lieu de partir, je remontai hâtivement sans croiser personne et j'aperçus le peintre qui continuait rageusement à s'escrimer contre la porte. « Que se passe-t-il donc ? » demandai-je. « Je n'y comprends rien, je ne peux plus entrer. » « Vous avez votre clé ?» lui dis-je. « Parbleu, oui, j'ai ma clé. J'ai essayé d'ouvrir, mais le verrou est mis. »« Le verrou, pourquoi »« Est-ce que je sais ?» Angela a dû le pousser par mes gardes. Mais comme elle ne me répond pas, je commence à être inquiet. Elle a pu se trouver mal, être prise d'une syncope. « C'est juste, » fis-je. « Écoutez, il n'y a pas à hésiter. On ne peut la laisser sans secours. Il faut enfoncer la porte. » Sur ces entrefaites, le concierge était monté. À nous trois, nous nous jetâmes contre lui. Et après 7 ou 8 assauts furieux, le panneau céda, tandis que le verrou arraché tombait à terre. Alors nous nous précipitâmes dans l'atelier. C'était une grande pièce d'une 100aine de mètres carrés qui prenait jour sur la rue par une large baie vitrée. Près du mur du fond, le plafond évidé formait comme une haute cheminée qui se terminait par une lucarne d'environ 0,5 mètre de diamètre, à une distance d'au moins 7 mètres du plancher. Sur l'autre paroi, un escalier intérieur en bois menait à une soupente meublée d'un lit. En face, près d'une table de chêne, s'étalait un divan garni de pots de bête, et de tous côtés un fouillis de cartons, d'esquisses, de boîtes, de torses de plâtre, d'ustensiles hétéroclites, de costumes, de mannequins, de panoplies, donnait l'impression d'une boutique de brocanteur. À droite de la porte, une fausse cloison cachait une baignoire et formait cabinet de toilette. Nous jetâmes un rapide coup d'œil sur ce décor, et soudain Ferbal cria d'une voix rauque « Regardez, là, c'est effrayant !» En effet, sur le divan gisait inanimé, les bras étendus, Angela Dorn, les yeux grands ouverts, le visage crispé dans une expression terrifiée, avec dans sa poitrine un poignard enfoncé jusqu'à la garde. « Un suicide !» murmura José Ferbal d'une voix éteinte. « Je ne crois pas, » répliquai-je. « Ne bougez pas, ne touchez à rien. Où est l'appareil téléphonique ?» Le concierge me l'indiqua du doigt. J'alertai le commissaire du quartier, puis le quai des Orfèvres. « Y a-t-il un médecin dans la maison ?»« Oui, au premier. »« Allez le chercher, » dis-je au concierge. « Ma pauvre Angela, » gémit le peintre, « une si brave créature. »« Nous nous aimions, monsieur Mick. Elle paraissait heureuse. C'est incompréhensible. » D'un revers de main, il essuyait ses larmes. C'était une véritable artiste, une musicienne accomplie, qui s'était fait applaudir dans toute l'Europe. L'existence ne lui fut pas toujours facile, mais elle était courageuse et dévouée. Avec moi, elle avait trouvé la sécurité. Je ne l'aurais pas quittée. Vraiment, elle n'avait aucune raison de se tuer. Un homme, jeune et distingué, entra, le médecin. Il tâta le pouls, épia le souffle, fit diverses constatations. « Rien à faire, » prononça-t-il. « La position étalée du bras ne permet pas de conclure au suicide. On ne lâche pas ainsi un couteau qu'on vient de s'enfoncer dans le cœur. Le corps est encore souple et chaud. Cette femme a été assassinée sur ce divan il y a un quart d'heure. »« Assassinée ?» murmura Ferbal sourdement. « Du courage, » lui dis-je. « Quant à vous, docteur, je vous remercie. Du moment qu'elle est morte, veuillez reprendre vos occupations. Le médecin légiste sera là dans quelques minutes. » Le docteur se retira, et peu après, la justice arrivait sur les lieux. Chapitre 2e. Je vous fais grâce des recherches, interrogatoires, conjectures et tâtonnements de l'enquête. Me bornant à vous signaler que le manche du poignard ne portait aucune empreinte, ce qui écartait l'hypothèse du suicide et permettait d'autre part de conclure que l'assassin avait opéré avec des gants. Aucun objet n'avait disparu de l'atelier. Dans le poêle de fonte, on découvrit les cendres de papier récemment brûlées, des lettres probablement, car on retrouva un coin d'enveloppe avec un timbre de Bolivie dont malheureusement la date d'oblitération n'était plus lisible. Et ce fut tout. Le problème qui se posait nous parut plus qu'énigmatique, quasi insoluble. Aucun de nous, juge, procureur, commissaire de Tourant, inspecteur, ne put fournir une apparence d'explication plausible. Les reporters eux-mêmes, dont l'imagination est si fertile, ne trouvaient rien. Pour ne pas entrer dans le détail de nos investigations, ce qui serait bien long, je me borne à vous résumer les éléments de l'enquête. Et d'abord, je vous rappelle ce que vous savez. À midi précis, je sors de chez moi, et dans l'entrebâillement de la porte de l'atelier, j'aperçois Angela Dorn vivante. Je descends alors l'escalier en compagnie de son amant. Par parenthèse, ceci est très heureux pour lui, car s'il n'y avait pas eu de témoin, on aurait pu l'incriminer d'avoir assassiné sa maîtresse et d'avoir joué la comédie devant sa porte. Il est vrai qu'il y avait l'obstacle du verrou poussé à l'intérieur. N'importe, il n'eût pas manqué d'être soupçonné. Mais grâce à mon témoignage, cette idée n'effleura même pas les magistrats. Cela dit, je reviens à mon exposé. Tandis que nous descendons, Angela ferme sa porte à clé, tire le verrou soit par inadvertance, soit à dessein. Nous cherchons plus tard pourquoi. Puis, assez souffrante, prise du vertige cardiaque, elle va s'étendre sur le divan. Temps employé pour descendre les 5 étages, 1 minute. Le peintre traverse vivement la rue, entre chez le pharmacien, où il n'y avait aucun client, demande et prend le flacon de spartocamphre. Temps, 2 minutes et demie. Durant ce même temps, je lis 3 fois la missive de la préfecture devant la loge du concierge, sans que nous apercevions personne qui passe, soit pour monter, soit en descendant l'escalier. Joseph Ferbal revient avec le médicament, et pressé de secourir Angela, il gravit 4 à 4 les étages, temps, 1 minute et demie. Il essaie d'ouvrir avec sa clé, n'y parvient pas, appelle, frappe, une minute. Je monte vivement à mon tour, tant, une minute et demie. J'appelle le concierge, il monte, tant, une minute et demie. Nous nous battons contre la porte, tant, 4 minutes. Total, 13 minutes. Pour arriver à ce calcul, nous avons répété tous les actes accomplis, nous les avons minutés, montre en main. De ce total, il convient de défalquer les 3 minutes employées par Angela pour verrouiller sa porte, aller jusqu'au divan et s'y installer. L'assassin a donc disposé de 10 minutes pour exécuter son crime et s'évader. À présent commence la difficulté. Premièrement, pourquoi le meurtre a-t-il été commis? Deuxièmement, comment a-t-il été commis? Laissons de côté la première question qui est accessoire et passons tout de suite à la seconde. 2 cas peuvent se présenter. Le meurtrier se trouvait déjà dans l'atelier à l'insu de ses 2 habitants. Il s'y serait faufilé et caché dans un coin, par exemple dans l'alcôve de la soupente ou derrière la cloison dissimulant la baignoire. Après examen, nous avons reconnu la forte invraisemblance de cette supposition. En effet, depuis 24 heures, c'est-à-dire depuis la veille à 10 heures du matin, heure où Angela revint du marché, ni José ni elle n'ont quitté l'atelier. José a couché dans l'alcôve, Angela sur le divan. Vers 6 heures du soir, elle a pris un bain. La pièce ne possède ni tenture, ni rideau, ni armoire, ni aucun gros meuble dans lesquels ou derrière lesquels un homme se puisse dérober. Il y a là un placard à étagère horizontale où rien n'a été dérangé et où il est impossible de prendre place. En outre, en admettant même cette invraisemblable hypothèse, par où, une fois son crime commis, l'assassin se serait-il échappé? Et ceci nous amène au second cas. Le meurtrier aurait pénétré dans l'atelier, on ne sait comment, à midi passé après le départ de Ferval pour la pharmacie. Et à 12h13, il avait disparu. Comme tout cela semble déjà impossible. Mais écoutez bien ceci. Il existe une autre impossibilité résultant de la nature et de la disposition des lieux. C'est qu'on ne peut ni entrer dans cet atelier ni en sortir autrement que par la porte. En effet, le bâtiment des ateliers est isolé des immeubles environnants. Les ateliers superposés ne peuvent communiquer entre eux. Le mur de façade, en ciment armé, est absolument lisse, sans une moulure, sans une aspérité. Le conduit des eaux de pluie monte du sol au toit à une distance de 3 mètres des baies vitrées. Il n'y a ni volet ni contrevent. Pas un gymnaste au monde, pas un ventarnier ne se risquerait, après avoir grimpé au tuyau d'eau, à essayer de sauter de là jusqu'au mince rebord de la baie vitrée. Un saut pareil dans le vide, c'est la mort certaine. Donc, impossibilité absolue soit d'entrer, soit de s'enfuir par la baie vitrée. Reste l'hypothèse du vasistas, à laquelle je me suis longuement arrêté, que j'ai examiné sous tous ses aspects. Je vous rappelle que le plafond de l'atelier, près du mur du fond, s'évide en cheminée d'aération en se rétrécissant de plus en plus jusqu'à la toiture, où la lucarne n'a plus qu'un 0,5 mètre de diamètre. Cette lucarne se soulève par une tige à crémaillère, actionné par un cordonnet en fil de fer qui pend dans l'atelier à hauteur d'homme. Un homme placé sur le toit peut-il s'introduire par le vasistas? Certes, mais en se laissant tomber d'une hauteur de 7 mètres, ce qui même pour un gymnaste me paraît déjà une prouesse paradoxale. Au surplus, admettons qu'elle s'accomplisse sans cheville tordue et sans jambes cassées. Veut-on me dire comment, à moins d'avoir des ailes, le criminel regagnera la lucarne et le toit? J'ai vérifié à la loupe, juché sur une échelle double, les parois latérales de la cheminée d'aération tapissées d'un enduit blanc et friable, de même que tout le reste du plafond. Je n'y ai découvert aucune macule, aucune éraflure, pas la moindre éraillure. J'affirme avec certitude que personne n'a passé là. Rien que pour atteindre l'évidement, qui commence à 4,50 mètres du plancher, il fallut une haute échelle, qui n'existe pas dans l'atelier, ou bien poser la table sur la commode et superposer 2 chaises, tous objets qui seraient restés en place après la fuite du meurtrier. Enfin, rappelez-vous le temps, 10 minutes à peine, durant lequel il eut fallu accomplir tout cela. Au surplus, par acquis de conscience, j'ai amené sur les lieux un acrobate célèbre, de passage à Paris, et alors en représentation au cirque Medrano. Son avis fut formel, impossibilité absolue de quitter l'atelier, soit par la façade, soit par la lucarne du toit. Alors, demandai-je. Alors, conclut Mick, nous avons renoncé à résoudre l'énigme. Ce fut l'échec, l'échec complet. Pourtant, il doit y avoir une explication, dis-je. Je pense à certaines solutions. Mick se mit à rire. Ah, je vous vois venir, ô lecteur de romans policiers. Selon vos irréels détectives, le meurtrier, muni d'une fausse clé, guette notre départ, entre par la porte du palier, commet son crime, ressort et tire le verrou de l'extérieur grâce à un truc de la ficelle passant par deux petits trous percés d'avance. Très joli. Mais voilà, j'ai vérifié. Il n'y a pas de trou dans le panneau. D'ailleurs, je ne crois guère à ce procédé. Enfin, ce truc est impossible avec un verrou de sûreté, comme celui du dit atelier. Verrou à bouton muni d'un excentrique intérieur qu'on ne saurait actionner avec une ficelle. « Soit, répliquai-je. Alors il y a encore... Halte !» interrompit Mick. « Je lis dans vos yeux que vous songez à Edgar Poe et à le orang-outan de la rue Morgue. Mais un singe lui-même a besoin d'aspérité pour grimper, et un tel animal laisse plus de traces qu'un homme. Il perd des poils et ses ongles s'incrustent et éraillent les enduits. D'ailleurs, souvenez-vous, le fameux singe d'Edgar Poe a eu besoin, à l'instar d'un simple venternier, d'un paratonnerre pour monter, et il s'est servi d'un volet rabattu à moins d'un mètre de son bras pour parvenir au rebord de la fenêtre. Il n'aurait jamais pu pénétrer dans l'atelier de Ferbal par la façade, car le conduit des eaux est à 3 mètres de la baie, et si, par extraordinaire, il avait pu sauter par la lucarne, il n'aurait, pas plus que quiconque, pu y remonter, même par le fil de fer, beaucoup trop mince, 2 millimètres, pour donner prise. Sans compter qu'il eût certainement laissé des traces de son passage, à l'aller comme au retour. Dites adieu à l'orang-outan, mon bon ami. » Je regardais Mick d'un air si penaud que de réchef il éclata de rire. « Tout cela est bel et bon, » repartis-je vexé. « Vous n'en avez pas moins fait chou blanc ?»« En un sens, oui, et je l'ai reconnu, ce fut l'échec. Mais comme dit précisément Edgar Poe dans La Nouvelle Précité, la vérité n'est pas toujours dans un puits. Nous la cherchons souvent où elle n'est pas. En fait, vous remarquerez que dans tous les domaines, même dans les plus réels, les plus dépendants de la pratique, ce qui fait le plus défaut aux hommes, c'est l'imagination, l'esprit de poésie. Les cerveaux positifs, les logiciens, les déductifs s'en défient comme de la peste, et pourtant, la logique toute seule, la soumission servile au réel, nous conduisent parfois au pied d'un mur de granit, contre lequel nous heurtons en vain notre front. Un homme d'imagination, un poète, aurait peut-être trouvé tout de suite la solution de l'affaire Dorn, parce qu'au lieu de raisonner, de déduire, de faire des investigations matérielles, il se serait assis dans un fauteuil. Il aurait rêvé à de singulières constructions, croulantes et chimériques ici-bas, mais cohérentes et logiques dans le royaume de l'imaginaire. Vous continuez à vous payer ma tête, Mick. Pas le moins du monde, je parle très sérieusement, au contraire. Enfin, sapristi, il n'y a pas de miracle. Avez-vous trouvé une explication tout au moins théorique? Il l'a bien fallu. L'homme, homo sapiens, toujours trouve une explication raisonnable, qui est d'ailleurs souvent plus invraisemblable que le miracle, mais qui apporte la paix à sa cervelle. Dans le cas présent, j'en vois encore 2 auxquels vous n'avez pas pensé. Lesquels? D'abord, que nous nous sommes amusés dès le début, et qu'Angela s'est bel et bien suicidée, ce qui expliquerait tout. L'absence d'empreintes sur le manche du poignard n'est pas une preuve absolue, car on ne trouve pas toujours des empreintes. Et le fait d'avoir lâché l'arme n'est pas non plus rigoureusement péremptoire. Ce ne serait pas la première fois que les experts médicaux se seraient trompés. Oh, comme ça serait banal. Évidemment, c'est moins romanesque. Préférez-vous une autre explication? Voici une qui vous plaira, car elle a servi bien des fois aux auteurs de romans policiers. C'est qu'il y aurait dans cet atelier une issue secrète que, malgré nos sondages, nous n'avons pas découverte. Par exemple, une trame dans le plancher, un fond de placard qui se déplace sous l'action d'un ressort caché, etc. Ce serait fantastique. C'est ce que je vous disais. Pour expliquer à tout prix l'insoluble, l'homme résout l'invraisemblable par un autre invraisemblable, après quoi le voilà tranquille. Un sourire ironique voltigeait sur les lèvres de l'inspecteur. « Allons, Mick, ne me faites plus languir. Qu'avez-vous trouvé, finalement ?»« Procédons par ordre, mon cher. » Le problème, paraissant provisoirement trop énigmatique, l'affaire, sans être classée, tomba dans un demi-sommeil, d'autres crimes plus importants étant venus réclamer notre activité. Toutefois, je ne la perdais pas de vue. Voyant que je n'arrivais à rien du côté des moyens du coupable et de la façon du crime, je tournais mon effort du côté de la victime, espérant trouver par là quelque clarté, ne fût-ce qu'un lumignon dans ces ténèbres. Les notes de police recueillies au début m'avaient appris qu'Angela Dorn, d'origine polonaise, avait eu une existence diverse et nomade. Douée d'une jolie voix, elle avait débuté dans un cabaret de Varsovie. Par la suite, elle créa un numéro de danse à Vienne, avec un danseur autrichien nommé Günther, apparemment son amant. on la retrouve plus tard dans un cirque ambulant du Midi de la France, où elle faisait un numéro avec un clown musical. Après cela, on la signale à Barcelone dans une compagnie du genre Buffalo Bill, car elle est également bonne écuyère. Cette compagnie, dirigée par un Bolivien nommé Pablo, dut se dissoudre à la suite de pertes d'argent sur lesquelles la police espagnole n'a pu me fournir aucun renseignement. Depuis Barcelone, on perd la trace d'Angela. Certains prétendent qu'elle devint la maîtresse d'un prince italien richissime et qu'elle habita un magnifique palais à Rome. Si c'est vrai, cette liaison ne dura guère, car 6 mois après, on la retrouve à Paris, dans une boîte de nuit de Montmartre où elle chantait des chansons slaves. C'est là que José Ferbal la vit, subit son attrait et lui proposa de vivre avec lui. José sut lui plaire, et bien que ce fût loin d'être une vie luxueuse, Angela, après 10 ans de bohème ambulante, accepta volontiers ce havre paisible que lui offrait un artiste estimé qui probablement finirait par l'épouser. Qu'en concluez-vous ? D'abord ceci. C'est que dans ce genre d'existence nomade, une belle fille désirable, artiste attrayante, coudoie nécessairement beaucoup d'hommes, éveille des caprices, voire des passions, et peut en éprouver elle-même. Celle-ci a dû avoir pour amant le danseur, le clown, l'écuyer, sans compter pas mal d'autres, aristocrates, banquiers ou simples aventuriers. Devant ce meurtre mystérieux, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il n'est peut-être que l'épilogue d'un drame passionnel secret. Une vengeance, alors ? Une vengeance, oui. C'en a tous les caractères, puisque le coupable n'a rien dérobé. Angela a-t-elle naguère trompé un amant qui s'est juré de la punir tôt ou tard ? C'est très possible. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de chercher le coupable. Car après plusieurs années, comment retrouver, parmi peut-être 12 d'hommes, dont 3 seulement nous sont à peu près connus, celui qui l'a poursuivi d'une haine aussi tenace ? Et comment faire la preuve d'une liaison amoureuse dont il ne reste aucune trace, car la victime, souvenez-vous-en, a brûlé toutes ses lettres, désirant anéantir son passé en commençant une existence nouvelle auprès de José Ferbal. Alors, vous avez renoncé ? Non, parce qu'il reste une seconde hypothèse. Laquelle ? Voici. Il arrive assez souvent que, dans un certain milieu, la vengeance est un motif beaucoup moins noble qu'une passion déçue, qu'un amour infidèle. Le monde international des music-halls est en général honnête, mais là, comme partout, il se glisse des brebis galeuses, des personnages suspects. Tel individu, qui semble n'être qu'un artiste, en réalité exerce une profession occulte inavouable. Espion, escroc, trafiquant de drogue, colporteur de fausses monnaies, etc. Ses déplacements fréquents lui permettent à la fois d'échapper à la police et d'exercer en des champs renouvelés sa fructueuse carrière, à laquelle son talent d'artiste sert de paravent. À présent, supposez qu'Angela ait un jour nuit à l'un de ces hommes-là, qu'elle l'ait démasqué, fait arrêter, condamné, que sais-je. Vous rendez-vous compte de la haine qui a pu s'accumuler dans le cœur d'un tel individu contre celle qu'il a donnée ? Oui, je comprends. Ces choses-là sont fréquentes, beaucoup plus que la vendetta passionnelle. Avez-vous remarqué ce fait singulier ? Angela mit le verrou à midi, en plein jour, sachant que Ferbal ne s'absentait que pour un quart d'heure. Distraction, a-t-on dit. Moi je dis précaution. Et alors, lâchant la bride à mon imagination, j'en arrive à supposer qu'elle a reçu des menaces récentes. Qui sait, peut-être dans cette enveloppe venue de Bolivie qu'on a retrouvée aux 3/4 brûlée dans le poêle. Qu'elle a peur et qu'elle s'enferme. Rappelez-vous aussi l'expression terrifiée de ses yeux, de son visage, quand nous l'avons trouvée morte. Sans doute a-t-elle reconnu son agresseur. Tout cela, dis-je, est fort ingénieux. Ah ! Poursuivit Mick, si je pouvais retrouver l'homme, ou même simplement l'affaire judiciaire à laquelle il fut mêlé, j'aurais peut-être fait un grand pas vers la solution de l'énigme. Notez qu'un procès pénal se retrouve plus aisément qu'un litige amoureux, un drame de la jalousie qui est une affaire privée. J'ai donc tenté une enquête sur les artistes qui ont vécu avec Angela, sur Gunther et sur le clown musical Lizzie. J'ai eu des renseignements favorables. Sur le chef Cowboy Pablo, j'ai écrit à Barcelone, où l'on ne sait rien, sinon que la compagnie s'est dissoute à la suite de déficits ou de démêlés entre les associés. J'écris également à la police de Bolivie et du Paraguay. Malheureusement, ces pays, constamment en état de guerre ou de révolution, ont bien d'autres chats fouettés et je n'ai pas encore, depuis 4 mois, obtenu de réponse. Pour une affaire abandonnée, je vous trouve tenace, opinai-je. Que voulez-vous ? Malgré de plus importantes affaires, celle-ci hante un coin de ma cervelle de même qu'une équation non résolue taquinerait la cabouche d'un algébriste. En dernier lieu, il ne me reste plus qu'une ressource, tâcher de retrouver dans le monde du cirque un artiste qui ait connu ce Pablo, ce qui est fort aléatoire, ou alors attendre l'inspiration du ciel et surtout l'aide du hasard, ce dieu des policiers. Sur quoi mixes-tu ? Bien que vous m'ayez raillé, dis-je, je n'userai pas de la réciproque. Votre échec m'a autant intéressé qu'un succès et j'y retrouve malgré tout vos qualités habituelles, la logique et la perspicacité. J'ai l'impression que vous frôlez la vérité et qu'il vous suffirait de peu de choses pour l'atteindre. À ce moment, de la terrasse où nous étions attablés et d'où nous dominions la chaussée, nous vîmes s'avancer à la queue leu-leu, traînée par des chevaux assez minables, 5 ou 6 voitures, ces maisonnettes aux petites fenêtres à rideaux où loge d'ordinaire, comme dit Baudelaire, la tribu prophétique aux prunelles ardentes. Seulement ce n'étaient pas des bohémiens au teint cuivré, mais de braves forains du terroir français, des gars bien musclés aux joues roses qui escortaient leur équipage, tout l'attirail d'un cirque ambulant roulant lentement de vers Paris, où ces artistes allaient planter leurs tentes sur quelques boulevards extérieurs pour y exercer leurs talents durant les foires de Pâques. Sur la dernière voiture, une simple carriole ouverte, ils avaient disposé leurs panneaux réclames, ces tableaux naïvement expressifs qu'on suspend, dresse ou placarde devant la baraque, et dont l'éloquence picturale ampoulée et criarde agit plus fortement sur la conviction des foules populaires que ne le ferait la peinture impeccable d'un membre de l'Institut, ancien Grand Prix de Rome. Multiples apparaissaient les mérites merveilleux de ces artistes forains. Un gentleman en habit commandait impérieusement une escouade de chiens savants. Une aimée en robe de pourpre, les yeux bandés, lisait l'avenir dans un firmament bleu constellé des signes du zodiaque. Un singe en tauge ornée d'hermine installé dans une chaire de Sorbonne enseignait sur un tableau noir la géométrie descriptive. Un Hercule supportait en souriant à bras tendus un canon de forteresse. Tout à coup, Mick tressaillit, tendit l'index et me cria d'une voix agitée. « Là, regardez, la solution du problème !» Je regardais, mais déjà le chariot avait passé, et Mick poursuivait. « Le hasard, notre maître à tous !» Je l'écoutais, stupéfait, attendant goulûment ses explications. « Savez-vous ce qu'il y avait sur ce panneau ? Un cow-boy. Et savez-vous ce qu'il faisait ? Un exercice que nous avons tous vu pratiquer bien des fois au cirque ou au music-hall. Se placer à quelques mètres d'un panneau en bois devant lequel se tient une femme et l'encadrer d'une douzaine de poignards. Avez-vous compris ? Voilà le mot de l'énigme, comme c'était simple, et dire que je n'y ai pas pensé. La police espagnole m'avait simplement dit que Pablo était un artiste très habile, un émule, un épigone du fameux colonel Cody, tant comme cavalier que comme tireur à la carabine. Mais je n'avais pas songé au couteau. Ai-je besoin d'insister ? Pablo est monté sur le toit, a ouvert la lucarne, a vu Angela étendue sur le divan, les yeux fermés, défaillante, presque évanouie. D'une main qui ne tremble pas, qui ne se trompe jamais, il a lancé son poignard comme une flèche, et l'a frappé en plein cœur. Une seconde auparavant, au bruit de la lucarne soulevée, elle a ouvert les yeux, elle a vu le meurtrier, d'où l'expression de terreur de ses traits, et puis elle a expiré. Sans doute Pablo avait-il essayé, avec une fausse clé d'entrée par la porte, durant les absences du peintre. Mais Angela, se méfiant et tirant le verrou, il y avait renoncé. C'est alors que l'assassin, qui devait épier du palier supérieur, a grimpé sur le toit pour une chambre de domestique et il a compris l'avantage que lui offrait la lucarne. « Oui, » fis-je abasourdi, « tout s'explique. Du reste, » ajouta Mick, « je continue à présumer qu'il doit s'agir là d'un règlement de compte. En attendant, je vais faire rechercher Pablo. Rentrons à Paris. Ayez l'obligeance de me conduire au quai des Orfèvres. » Nous grimpâmes dans ma bagnole et une demi-heure plus tard, nous débarquions devant les locaux de la police judiciaire. Une lettre attendait Mick sur son bureau. En reconnaissant les timbres, il l'ouvrit d'une main hâtive, puis me l'attendit. « C'est de l'espagnol. Ça vient de La Paz, en Bolivie. Traduisez-moi vite ce texte au polyglotte. Il s'agit de Pablo. Curieux, hein ? Après avoir barboté des mois dans les ténèbres, aujourd'hui la lumière m'arrive de tous les côtés à la fois. » Voici quelle était la teneur de la lettre. « Monsieur et très honoré collègue, en vous priant d'excuser ce long retard, j'ai l'honneur de vous fournir ci-après les renseignements que nous avons pu recueillir sur le sieur Pablo Vicente. C'est un artiste de cirque très habile, cavalier, jongleur et tireur remarquable, mais joueur de cartes invétéré, ce qui a beaucoup nui à sa carrière. ayant perdu beaucoup d'argent au jeu en Espagne, il licencia sa troupe de cow-boys et revint en Bolivie, à Santa Cruz, sa ville natale, accompagné d'une femme nommée Angela Dorn. Au dire d'un ancien cavalier de sa compagnie, revenu à La Paz, Pablo Vicente était très attaché à cette femme, mais il la brutalisait terriblement, allant jusqu'à l'abattre et la fustiger à coups de cravache. En Bolivie, Vicente perdit ses derniers écus dans les tripots de Santa Cruz, mais continua à vivre fastueusement, ce qui éveilla nos soupçons. Mais nous ne pûmes jamais les préciser, tant il avait su habilement déjouer nos recherches. Enfin, un jour nous reçûmes une lettre anonyme, nous informant que Vicente était affilié à une bande de faux monnayeurs, et nous indiquant l'heure et le lieu de la distribution des faux billets de banque, ce qui nous permit de le prendre en flagrant délit avec plusieurs de ses complices. Pablo fut condamné à 5 ans de prison. Il venait d'être libéré depuis 3 mois, lorsque nous parvint votre lettre demandant des renseignements. Dès son arrestation, voici 5 ans, sa maîtresse Angela Dorn était partie pour la France. On croit également qu'après sa libération, Pablo serait retourné en Europe. Toutefois, il n'y resta pas longtemps, car récemment, on l'a vu reparaître à Santa Cruz, où sans doute, dénué de ressources, il a pris du service sur le front de guerre. Aux dernières nouvelles, il aurait disparu dans la forêt de Grand Chaco. Toujours à votre disposition, veuillez agréer, monsieur et chers collègues, mes salutations distinguées. Inspecteur Manuel Garcias, police de La Paz, Bolivie. Dans le Grand Chaco, s'exclama Mick. Alors on peut courir. Autant chercher une fourmi dans un grenier à foin. Mais tout est bien clair à présent, n'est-ce pas? Pour se débarrasser d'un amant brutal et odieux, Angela Dorn l'a donné à la police et a payé ses dénonciations de sa vie. Il n'y a plus qu'à classer l'affaire. Car si la police bolivienne retrouvait jamais Pablo, il restera encore à prouver que c'est lui qui a tué. Et nous n'avons que des présomptions insuffisantes pour obtenir l'extradition. Il ne me reste que la satisfaction platonique d'avoir pu, la chance aidant, résoudre une énigme qui paraissait insoluble et qui est certainement la plus épineuse que j'ai jamais rencontrée au cours de ma carrière. Ainsi s'achève un échec, une enquête de l'inspecteur Mick, par Alfred Mortier.